Je suis en compagnie d'Anton Berabert pour parler de La Grande Idée aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Anton Berabert. Qui est le narrateur de votre livre ?
Le narrateur de La Grande Idée, c'est un personnage qui a un statut un peu spécial, une sorte de fantôme. C'est un universitaire, c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux traditions populaires, un petit peu aux personnages qui parcourent les récits des nourrices, les récits des mères. Et ce personnage, cet universitaire, a décidé de consacrer un travail, universitaire donc, à Saul Kaloyanis, une figure un peu historique, mythique, il ne sait pas trop, de la Grèce des années, enfin, de la Grèce du milieu du XXe siècle. Alors c'est un narrateur peut-être un petit peu discret, bien sûr, comme s'il avait conscience de sa place dans le livre, qui n'est pas la première place, pour le coup. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il soit complètement absent. Il fait des choix, il prend conscience très progressivement de la spécificité de son enquête. Il comprend que cette recherche ne sera pas qu'une thèse universitaire lambda, ne sera pas un de ces travaux qui vont encombrer les bibliothèques des universités de Salonique pendant des années, qui ne seront jamais lues. Il finit par savoir, à mon avis, je ne sais pas à quel moment, mais il finit par comprendre que le personnage qu'il poursuit, Saul Kaloyanis, représente, à mon avis, une sorte de chimère fondamentale, comme disait M. Puig. Une sorte de chimère fondamentale.
Alors cet universitaire, on a très peu d'éléments sur lui. C'est certes le personnage qui va nous véhiculer dans toute cette fiction, mais il est toujours en retrait parce que par lui, nous avons accès à des témoins. Nous avons accès à la parole de témoins qu'il va interroger, donc il se déplace, il va à la rencontre des témoins de ce personnage mystérieux, Saul Kaloyanis, et c'est la parole de ces témoins qui nous est restitué comme des interviews. Qui sont ces témoins ?
Alors vous avez raison, il va interroger un certain nombre de personnes qui ont été dans le sillage, qui ont été à un moment donné de l'histoire à proximité de Saul Kaloyanis. Alors ces témoins ne sont pas des personnages historiques, ne sont pas des figures importantes, ne sont pas des gens que vous pourriez trouver sur Google, pour le coup. Ils ont été là, près de Saul Kaloyanis, et ils ont vu certaines choses. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà interrogé des témoins mineurs de l'histoire, vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont vu de la Seconde Guerre, par exemple. Et quand on interroge un témoin mineur de l'histoire, on est toujours un peu déçu. La personne en face, qui n'a pas forcément étudié son sujet, ne sait pas répondre, répond à côté, choisit ses biais, a tendance parfois à mentir un peu pour s'installer dans son histoire à un endroit, à une place qu'il n'avait pas eue. Et ben ces témoins-là ont ces difficultés à parler, ont ces petits défauts, ont ces petits aménagements nécessaires avec le récit. Et ils vont chacun essayer de raconter qui a été, ce qu'a été pour eux Saul Kaloyanis. Alors bien sûr, comme dans n'importe quel travail de mémoire, comme dans n'importe quel travail de rencontre, les récits ne correspondent pas toujours, et le contraire eût été anormal. Mais j'aurais du mal à trouver un autre point commun entre ces différents témoins, sinon le fait d'être mal à l'aise avec leur propre récit, et de tâcher péniblement d'y trouver leur place. On n'a pas forcément chacun sa place dans sa propre histoire. Et quand on la raconte, on est toujours un peu malaisé. Je pense que ce malaise, c'est ce qui les caractérise tous.
Donnons la parole à ce premier témoin. Voici comment Saul Kaloyanis fait irruption. Voilà comment j'ai rencontré Saul Kaloyanis. Il s'était assis contre le mur de la prison, face au feu qui finissait de s'éteindre, et suivait sur les nuages les orbes des fusées éclairantes des deux bords. On est dans une scène de guerre. C'est un compagnon d'armes, en fait, qui nous en parle. Un peu plus loin, il dit « Je l'ai suivi. Plus tard, j'ai pu penser au croire des choses sur la prison et lui, ce que les gens disent. Mais les gens n'en savent rien, sinon ils se tairaient. » Voici déjà comment fait irruption ce personnage mystérieux. Et par ce premier témoin, nous avons accès à une première scène inaugurale de guerre.
C'est vrai que j'ai voulu commencer par installer ce récit dans la violence d'une guerre, une guerre qui a existé hein, dans l'histoire du monde, mais bon, qui pourrait être aussi toutes les guerres. Je pense qu'une guerre qui représente toutes les guerres, une violence avec un grand V. Ou comme dans toutes les scènes de violence, les gens enregistrent beaucoup mais conservent peu. Et c'est vrai que ce compagnon d'armes, ce capitaine qui a assisté à un peu la geste originelle de Saul Kalayanis, se retrouve tout d'un coup, au fur et à mesure de sa vie, donc après la guerre, confronté à ce que d'autres ont pu en dire. Et lui-même est étonné, ça ne correspond pas, il ne sait pas si ce qu'il a vu correspondait à ce que les autres ont vu. Et comme tout le monde, il commence à douter des autres. Est-ce que les autres mentent? Ou est-ce qu'à la fin, ce n'est pas moi qui ai été partial? Moi qui me suis laissé embringuer quelque part dans le mythe? Alors que, en théorie, j'étais compagnon, je l'ai vu, je n'aurais pas dû être prisonnier de ce mythe. Et je pense que ce capitaine, ce premier témoin, même si... On parle d'un capitaine, c'est quelqu'un qui sans doute a eu des responsabilités, quelqu'un qui a l'habitude de prendre la parole, quelqu'un qui a l'habitude peut-être même de raconter ses souvenirs. Et bien là, on le retrouve en proie à cette impossibilité de dire exactement qui était Saul Kalayanis. Je crois que ce premier témoin pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
Justement parce qu'il est aussi le premier témoin, et qu'il faut bien entendu que la fiction agisse peu à peu et infuse peu à peu auprès du lecteur. C'était la première partie. Deuxième partie, un deuxième témoin. On comprend donc, à vous lire par ordre chronologique, il y aura sans doute un témoin par partie, du moins au début. Le narrateur, l'universitaire, rencontre donc un deuxième témoin dans la deuxième partie. Ce témoin lui raconte une autre scène de guerre qui vient un peu après la première scène. Cette petite troupe arrive dans un hôtel au bord de la mer, et derrière cet hôtel, le désert. Et là, déjà, ça peut nous rappeler des souvenirs de littérature. Voilà, un hôtel un peu perdu, on est dans une sorte de mirage avec le poids de ce désert derrière, une fuite quasiment impossible, mais un appel du désert, mais surtout l'appel aussi de la mer. Et dans cet hôtel, on est partagé, j'imagine, cette troupe est partagée, c'est ce que vous nous faites ressentir dans le texte, par justement ce que raconte ce personnage. Entre l'appel de la mer et l'appel du désert. Et là, va prendre corps, on comprend qu'il y a eu une trahison. J'aimerais que vous nous en parliez. D'abord, je vais vous lire. Vous ne pouvez pas imaginer la colère bougre d'âne, la colère quand j'ai réalisé le coup qu'il nous faisait. On avait été bien con de suivre un bonhomme pareil, j'ai pensé, parce qu'il n'en avait rien à foutre qu'on se rentre chez nous ou non. Avez-vous jamais été trahi? On peut se le reprocher indéfiniment à soi. De cette fille sans précaution, et tout nous apparaît clairement, mais trop tard. Après, dans la solitude du désarroi, libre à nous de croire qu'on renaclait d'instinct, que, comme une expérience décevante à laquelle, dans la confusion de l'avenir, des aubes glorieuses se subordonnent, on l'avait senti venir et on l'avait désiré. Il est bien entendu que c'est faux. Par ailleurs, cela n'atténue rien.
Effectivement, ce deuxième chapitre va montrer, je pense, une nouvelle facette de ce chef militaire qu'aurait été Saul Kalayanis, selon certains. C'est un chapitre complètement différent, dans un autre univers. On était au milieu de la violence, de la guerre, on était dans une sorte de bataille éternelle, et tout d'un coup, c'est un non-lieu, un non-temps, une sorte de grand vide, une sorte de désert des Tartares, hein, en plein milieu de nulle part, où les hommes qui avaient fui la bataille avec Saul Calayanis, qui avaient fui la bataille déjà, un indice important, commencent à s'interroger sur cette figure de chef. Naturellement, comme tous les égarés des grandes défaites, ils avaient voulu suivre quelqu'un, ils avaient voulu trouver un guide, ils avaient espéré qu'on répondrait à leur peur, à leur désir de rentrer chez eux. On leur offrirait le jour de la journée du retour, mais ils se rendent compte peut-être très progressivement, et avec, ça dépend des personnages, en l'occurrence le personnage qui parle dans ce deuxième chapitre est peut-être plus lucide que les autres, ils se rendent compte que le but de Calayanis n'est peut-être pas le même que celui des hommes qui l'ont suivi. Alors, moi ce qui m'a intéressé, vous l'avez compris, un peu dans ce roman, en donnant la parole à plusieurs personnes, c'est aussi de retrouver un petit peu la composante orale de la littérature des origines, du fait que la littérature, au tout début, avait gardé, enfin, tiré toute sa force, toute sa capacité plastique d'être une suite de récits oraux, malléables, attribués à des personnes différentes, a posteriori. Et c'est vrai que faire de ce roman une suite de paroles libres, paroles un petit peu, enfin libres dans tous les sens, libres un peu mensongères aussi, un petit peu gênées, je voulais retrouver un petit peu cette force des premières épopées, un petit peu si vous voulez comme dans ce roman de Cadaré, je ne sais pas si vous connaissez le dossier H, où deux narrateurs vont visiter l'Albanie des années 10 pour rencontrer les derniers Aèdes et explorer un peu le phénomène épique. Ici, je voulais soumettre un peu comme une expérience technique, le phénomène épique a ses limites physiques. Le phénomène épique, ça survit bien dans une bataille. Qu'est-ce qui se passe si on amène le héros d'une épopée dans un désert où ses hommes commencent à le regarder d'un drôle d'œil? On parle facilement de trahison. C'est un mot qui apparaît.
Vous parlez d'épopée, vous parlez de cette oralité des origines. Et chaque chapitre peut apparaître comme un chant. Dans mes notes, je les interprétais comme ceci. Premier chant, deuxième chant, troisième chant. Parce que, effectivement, c'est la place de l'oralité. C'est la place d'un témoin, à chaque fois, qui est interviewé. On imagine que ça pourrait être une retranscription d'interview enregistrée au micro. À un moment donné, dans cette deuxième partie, dans cette scène d'hôtel, celui qui a la parole, ce témoin, dit « Je ne sais plus très bien ce qu'il en est. J'ai interrogé des gens, moi aussi, au début surtout. J'ai fait mon enquête comme vous. Cependant, même ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, moi, je n'en suis plus trop sûr. » Et là, il pose la question. Le nom de l'hôtel ? Le nom de l'hôtel, point d'interrogation. Même peut-être ceci est un mystère. Et c'est peut-être le moment où, en tant que lecteur, on peut se poser la question de est-ce que ce ne serait pas là aussi une manière d'être créatif avec le mystère de la littérature ?
Eh bien écoutez, si vous voulez, ce narrateur qui va interroger un certain nombre de témoins, pour moi serait une sorte d'écrivain raté. Quelqu'un qui voudrait écrire une histoire mais qui n'aurait pas compris la nature de la littérature. Il voudrait plus qu'écrire une histoire, il voudrait suivre une trajectoire héroïque. Il aurait dans sa tête sans doute des mythes précis, des histoires qu'on lui aurait racontées. Il aurait une sorte de... Il connaîtrait par cœur la chanson de Roland, l'épopée de Dionys Akritas ou ce que vous voulez. Et pour la première fois de sa vie, alors malgré toute sa culture, malgré son érudition, malgré sa patience, il serait confronté à la réalité de la chose. Et en fait, qu'est-ce qu'il comprendrait ? C'est que la littérature, et on va dire son représentant, son premier degré d'hypostase qui serait le héros, enfin l'héroïsme, la littérature n'est pas un fil narratif. La littérature n'est pas une intrigue, une tresse, comme une image qu'on emploie souvent pour parler d'intrigue, n'est pas une tresse toute propre qui mènerait au fur et à mesure à quelque chose de, à une sorte de réponse, à une sorte de vérité qu'on vous transmettrait, question qu'on pose souvent, que doit transmettre le roman. Bon, c'est pas du tout ça. Mais on est au début du livre et il commence à subodorer, il commence à se douter qu'il n'y aura pas ici de certitude. Il ne sera pas question de beaucoup de certitude dans ce roman. Et ses réflexes universitaires, ça se passe où ? Comment s'appelle cet hôtel? En quelle année? Montrez-moi une carte. Ben, ces réflexes d'universitaire sont en quelque sorte caducs. Caducs. Je pense qu'on peut dire ça. Finalement, ça pose un peu la question, comment aborder une sorte de mythe? Comment aborder le mythe aujourd'hui? Est-ce que les méthodes de l'université, toutes rigoureuses fussent-elles, sont les plus pertinentes? C'est assez peu certain. Et je pense qu'avec ce chapitre 2, quand on sort d'une guerre datable, d'une guerre googlisable, on dirait aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre pour l'enquêteur, pour le curieux, pour l'érudit, peut-être?
Avec le chapitre 3, les premières pages de ce début de troisième chapitre ne sont pas directement la parole de ce troisième témoin, mais c'est le narrateur qui nous parle un peu de l'ambiance de là où il arrive. Ça commence comme ça. Arrivé à la galerie, elle se tait. Les fenêtres de la galerie septentrionale donnent sur le jardin et plus loin, sur les vignes qui descendent vers la petite ville de K. J'ai cru assister à une scène du château de Kafka. Et là, immédiatement, on peut se dire, il y a un truc, il y a une sorte de paratexte. Le texte, c'est moche comme terme, mais il y a des truchements, il y a des trucs, il y a un appel à l'imaginaire littéraire déjà là qui est injecté dedans. Il y a comme si c'était des scènes d'autres romans qui étaient rejouées, comme si une partie de la littérature se rejouait là aussi. Et là, on comprend qu'il va falloir. Que l'auteur a été malin, qu'il y a des trucs quelque part. Parlez-nous un petit peu de ce troisième chapitre et de cette petite ville de K.
Alors, j'aurais un peu de peine à définir les sous-textes à chaque fois. Dans ce troisième champ, je vais reprendre votre expression parce qu'elle me semble assez juste. Et il ne m'aurait pas déplu que Gallimard le reprenne également. Dans ce troisième champ, la question qui se posait, c'était, et l'art dans tout ça? La parole, tout le monde l'a, hein, tout le monde peut parler de quelque chose, et finalement tout le monde est récipiendaire d'une parole, tout le monde a sa charge, tout le monde a sa charge un peu de l'épopée. Mais il existe d'autres arts, peut-être plus élitistes, peut-être plus sélectifs, qui concernent en tout cas peu de personnes, et je pensais bien sûr à la peinture. Ici, un peintre, dans ce chapitre 3, un peintre va faire partie de ce corpus de témoins, va approcher Saul Coloianis, et il va en rester bien sûr des traces, un tableau en l'occurrence. Alors, vous parlez du château, je ne saurais pas trop quoi dire, j'aurais envie de parler de toute autre chose en fait. Vous connaissez peut-être le romancier italien Alessandro Baricco, que j'adore bien sûr, et je pensais, alors aujourd'hui là, comme ça quand je pense à ce peintre, je pense beaucoup à un de ses romans qui s'appelle Océan en mer, où il y a une figure de peintre. Vraiment une figure de peintre admirable qui s'est attachée à peindre quelque chose d'impossible, en l'occurrence peindre la mer. Alors vous verrez, je ne vais pas m'avancer dans ce très très beau roman, mais vous verrez que dans cette quête de la peinture impossible, il a passé du temps sur bord de l'eau et il a utilisé l'eau, il l'a travaillé à la lumière. Vous verrez ça dans ce très beau texte. Et c'est vrai que cette figure du peintre de l'impossible, j'ai voulu la mettre au service du héros, de Saul Coloianis. Et de l'épopée. Qu'est-ce qu'il en reste? Je ne sais pas trop. J'ai pas prétention de mesurer à Baricco, qui est vraiment pour moi un des grands de ce siècle. J'ai quand même voulu montrer que c'est pas parce que le phénomène épique était incernable, compliqué, tout ce qu'on a dit, qu'il ne produisait rien, qu'il était complètement stérile. Je pensais qu'au contraire, il projetait beaucoup de choses dans notre siècle. Et que les arts qui essaieraient de s'y colter ne seraient pas inféconds, ne seraient pas dans l'erreur. Lui, ce peintre-là, malgré l'impression qu'il en a tiré, il n'est sûrement pas dans l'erreur. C'est pas ce qu'en pense en tout cas le narrateur. Dans la petite ville de K, j'ai beaucoup pensé, pas tellement à Kafka, mais beaucoup plus à. Vous savez, ces petites villes italiennes qui aujourd'hui ont perdu un peu de leur superbe, les villes comme Lucques par exemple, qui aujourd'hui sont des sortes de sous-préfectures un petit peu obscures, mais qui gardent une sorte d'aura miraculeuse. On a l'impression que n'importe quel peintre du dimanche s'asseyrait sur une grande place, enfin sur une de ces places désertes, et deviendrait immédiatement, enfin, deviendrait une sorte de génie. Ça lui descendrait tout d'un coup de la qualité de l'air. Et je voulais montrer ce que c'était que. Je repensais à ces villes qui avaient une sorte d'énergie créatrice qui n'avait pas complètement disparu, quelle que soit la taille réelle du bourg. Souvent, quand vous visitez un peu les Balkans, vous êtes confronté à ces villes où il n'y aurait, où rien ne devait exister. La ville ne semble pas avoir de raison d'être, ça ne produit rien, c'est loin de la route, il faut descendre pour chercher de l'eau. Et pourtant, la ville existe et semble attirer quand même des gens, des arts populaires. Et ces arts populaires attirent toujours un Anglais, un Italien, quelqu'un qui vient se poser pour finir sa vie avec tous ses tableaux. Bah, j'avais un petit peu ça en tête, un petit peu ça en tête en pensant à K. Mais je pense pas que ce soit le nerf de ce chapitre. C'était vraiment montrer. Comment finalement d'autres arts avaient quelque chose à dire, pouvaient réagir, comme vous savez, un film photographique pouvait réagir à la présence de Kaloyanis. C'était pas une image fantôme, vous savez, comme dans les films de vampires, où les vampires, comme vous le savez, ne laissent pas de traces sur les films photographiques. Ce n'est pas le cas. Il impressionne la pellicule. Bon, d'une manière un peu décalée, décevante, je ne sais pas. C'est pas exactement ce que on peut imaginer, mais il a impressionné cette pellicule.
Oui, c'est K demi un portrait. C'est il y a aussi un jeu de c'est lui mais pas lui. C'est il y a de l'effacement derrière. Il y a un double personnage aussi. Et cela jette le trouble jusqu'à l'exactitude de cette image ou de cette possibilité d'image. Avec le quatrième champ, appelons cela des champs. Nous prenons la mer. Nous prenons le large. Nous prenons la mer Méditerranée et on a davantage d'indications sur la trahison de Saul Kaloyanis. Mais avant, pour parler un peu de ce qui se passe dans ce quatrième champ, vous parliez tout à l'heure de Google. J'ai dû googliser votre livre, bien entendu, pour vérifier. Je ne suis pas science infuse, je ne connaissais pas les noms et il me semblait bien qu'il y avait des jeux. Donc j'ai googliser un personnage important dans ce quatrième champ, c'est Piri Reis, un amiral. Un amiral qu'on imagine du XXe siècle, entre les deux guerres. Piri Reis, en fait, c'est un amiral turc, mais du XVIe siècle. Elle est là, bien entendu, cette transplantation de Piri Reis, qui a une très longue notice sur Wikipédia. J'ai appris beaucoup de choses sur cet amiral. Et là, on assiste à un merveilleux jeu de cette Méditerranée. C'est-à-dire qu'on comprend également que c'est rejouer. C'est rejouer toute la Méditerranée, c'est rejouer l'Europe. Alors, c'est rejouer cette histoire-là en juxtaposant des temporalités qui, normalement, ne pouvaient pas avoir lieu elles-mêmes ensemble. Et ça. Ça produit un effet, ça produit un appel à l'imaginaire, ça produit un appel à la concordance de temps impossible. Et on imagine que ce n'est pas pour rien que Saul Kaloyanis est grec et qu'il soit mystérieux. C'est-à-dire que par ce quatrième champ, on peut comprendre, imaginer, sentir que vous rejouez par là l'histoire européenne qui débuterait avec ce miracle grec.
Alors, j'ai toujours été un peu. Alors, déjà, merci d'avoir remarqué que Piri Reis n'était pas du XXe siècle. Ça paraît idiot, mais vous êtes le premier à m'en faire la remarque. Personne, pour l'instant, s'est passé comme une lettre à la poste. Peut-être, je vais d'abord parler de Piri Reis. Pourquoi j'ai voulu faire intervenir Piri Reis? Pour une raison très simple. Et je ne sais pas si ça vous a peut-être. Je ne sais pas si vous partagez cette connaissance-là. Piri Reis, Yarais, je ne sais pas comment on dit en français. Yarayis, en arabe, on dit le mot turc est passé. Hein. Yarayis, Sisi, le président Sisi. Mais Piri Reis appartient à la contre-culture, clairement, des années 90, 1990, des années 1990-2000, et sans doute même avant, mais c'est vrai que là, c'est appartient à la contre-culture Internet des années 90. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? À cause des cartes de Piri Reis. Les cartes de Piri Reis sont ces fameuses cartes qui reproduisent, qui reproduiraient les contours de l'Antarctique avant la glaciation qui a dessiné les côtes actuelles. Et sur un certain nombre de sites internet que j'ai pu consulter moi quand j'avais 12 ans et que ça me fascinait, on voit ces cartes impossibles, ces cartes du 16e qui nous montrent une Antarctique vraiment antédiluvienne. Généralement servi sur Internet avec tout un tas d'études satellitaires américaines top secrètes tendant à montrer que cette carte-là était le souvenir d'une technologie très ancienne appartenant à une civilisation maîtrisant le vol spatial. Bon, bref, peu importe. C'est vrai que Piri Reis, plus qu'une sorte d'ambiance bataille de Lépante, est associé pour moi tout de suite à qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec le mythe moderne. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec la parole libérée, avec les flux d'informations, l'épopée n'existe plus? Comment ça va fonctionner aujourd'hui, alors qu'on peut facilement transmettre des récits, qu'on n'a pas besoin de marcher jusqu'au village à côté? Et ben moi, je pense que Internet représente une sorte de renaissance possible du phénomène épique, et ça marche très très bien avec ces petits mystères des années 90. Alors, peu importe là pour le coup, peu importe la vérité, c'est pas du tout mon point de vue. Je pense pas du tout que Piri Reis ait maîtrisé des technologies extraterrestres, mais qu'un certain nombre de gens aient pu le penser à l'apparition, au moment où Internet s'est démocratisé dans les années 90, m'a toujours fasciné. J'ai voulu prendre ce personnage qui symbolisait pour moi les nouveaux excès de la parole. Excès qu'on peut condamner, hein. On peut condamner ces excès, on peut aussi être fasciné, on peut aussi rêver devant ces excès. Et leur trouver, à mon avis, une capacité fécondante. Ça peut créer quelque chose. Et pas seulement un épisode de X-Files, je pense. Alors, j'ai pris Piri Reis dans ce but-là. Mais c'est vrai que depuis, on m'a beaucoup interrogé sur la naissance d'une conscience européenne, non seulement à cause du miracle grec, mais également à cause, finalement, même si... Bon, c'est pas forcément son ouvrage, il est lié assez indirectement à la bataille de Lépante en général, au moment où l'Empire ottoman a marqué le pas, n'a pas pu avancer plus, n'a avancé en Europe autant qu'il le désirait. Alors, en toute honnêteté, ce n'était pas du tout mon ambition. Dès le début, l'hellénisme de Saul Kalayanis m'a semblé, bien sûr, tenir beaucoup de ce miracle grec, hein, pour reprendre l'expression de Jacqueline de Romilly, mais aussi beaucoup des années 1940-1950, de ce que c'était qu'être grec en exil à l'époque de la guerre civile dans le nord de la Grèce, vraiment de ce moment où la guérilla commençait de s'essouffler, où on arrivait vers un régime plus dur, et surtout, bien sûr, pendant le régime des colonels, où, comme vous le savez sans doute, Paris, et même en particulier Gallimard, ont été des lieux de repli pour un certain nombre de voies. Cet hellénisme-là, oui, m'a fait rêver et m'a pas paru complètement ringard en 2018. D'autant plus que la Grèce, assez récemment, était redevenue, à la suite de l'élection de Tsipras, en tout cas, certains ont cru, moi sans doute aussi, que la Grèce redeviendrait le fer de lance d'une certaine idée de l'Europe. Et cette idée-là, oui, en ce sens-là, que Saul Kalayanis fût grec faisait vraiment sens. Je suis plus mal à l'aise qu'autre chose aujourd'hui avec cette question entre grec et turc. Le turc, pour moi, représentait l'autre, la fuite devant l'autre, mais pas du tout une altérité hostile, pas une altérité frontale. Moi, je pense souvent, si vous voulez, à ce héros des épopées byzantines du XIIe siècle qu'on appelle Dionysos Akritas, qui est le Roland grec, le Roland byzantin. qu'on aurait bien peine à faire, à voir comme un héros nationaliste, pour la bonne et simple raison que Digenis en grec signifie celui qui a une double naissance. Akritas, c'est celui des marges, des bords du monde, un peu. La même étymologie que Marquis en français, si vous voulez, celui des, le héros des marches. Et Digenis Akritas, c'est un héros, bien sûr, qui essaie de défendre la chrétienté byzantine, mais dans un monde où les frontières sont très poreuses, lui-même est de double sang. Il a des alliés musulmans, des ennemis orthodoxes. Et on se rend compte que finalement, dans le feu de l'histoire, dans la réalité de la chose, cette opposition entre Turc et Grec, elle n'a pas toujours été aussi nette que ça. On sait par exemple que quand Mehmet a pris Constantinople, il n'a pas du tout brûlé la ville, il n'a pas du tout brûlé, enfin, ils ne se sont pas fait des bains avec les manuscrits, loin de là. Il y avait de l'admiration, il lisait le grec, enfin, les Turcs en général, les Ottomans ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de garder ce patrimoine grec, de le faire fleurir, de l'entretenir. Voilà pourquoi une opposition entre Turc et Grec dans ce roman, elle a un intérêt littéraire, mais je la trouve pas tant que ça. Pyrrhi Rex, par exemple, n'est pas l'ennemi des Grecs dans ce passage. Il est prisonnier d'une réputation terrible, qu'il a sans doute mérité, peut-être, je ne sais pas. Mais son bateau est un espace de dialogue. Hein. D'ailleurs, regardez, les Grecs sont là comme traducteurs, très souvent. Et la logique du don contre don s'applique encore sur sa barge.
Oui, ils ont des moments de discussion, Pyrrhi Rex avec Saul Kaloyanis, et ils laissent partir Saul Kaloyanis sur un bateau avec ses marins, en tout cas, avec une sorte d'équipage, enfin, avec sa troupe, en tout cas. Et c'est à ce moment-là que va prendre effet la trahison, ou la deuxième trahison de Saul Kaloyanis. Ils partent sur leur bateau, donc la troupe entourant Saul Kaloyanis, et lui manœuvrant. Je vous cite. Il a manœuvré tout seul, en s'aidant de son couteau quand les nœuds tenaient. Il a pesé fort sur la barre, et lentement le pauvre esquisse a viré de bord. La terre, cette fine vapeur grise à l'horizon, s'est dissipée. J'ignore aujourd'hui quelle force inconnue nous laissa immobiles pendant que s'accomplissait l'irrémédiable, quel inexplicable tétanisme devant la courbe nouvelle qu'imprimait à notre destin cet étranger qu'un instant avant. Nous nous targuions de connaître. Il aurait fallu, pour oser lui mettre la main dessus, que notre peur d'une errance sans fin ne nous paraisse pas si dérisoire. Mais quelle peur aurions-nous revendiquée, nous les sans-voix, les sans-esprit, face à l'autorité d'un tel geste? On n'aurait pas plus empêché le prêtre de rompre le pain. La voile libérée claquait inutile dans le vent. Nous avons réagi trop tard. Quand on put s'emparer de lui, le navire repartait dans l'océan immense et nos efforts pour le rétablir furent vains. Ils avaient donc aperçu la terre ferme, mais d'un geste incroyable, leur capitaine Saul Kaloyanis a éjecté le bateau de la terre et s'est replongé dans les profondeurs marines. C'est le voyage sans fin, c'est l'impossibilité du retour chez soi. Il y a ce deuxième moment où Saul Kaloyanis revient en bateau auprès de Pyrrhi Rex, et Pyrrhi Rex lui dit ceci. La scène, enfin, il lui dit ceci qu'à la fin. La scène se fige, 1000 ans passèrent, puis le puissant sur la mer, donc Pyrrhi Rex, le puissant sur la mer se leva. Il marcha vers le grec et, approchant le visage si près du sien qu'un autre l'eût aussitôt détourné, il fixa les yeux sur lui comme s'il regardait au travers d'une pierre précieuse pour en mesurer la pureté. « Tu ne veux donc pas rentrer, ô grec ? T'es-tu rendu coupable là-bas d'un plus grand crime que celui de condamner tes gens à errer sans fin ?»
Vous avez raison, c'est vrai que dans ce chant 4, Saul Kaloyanis va se dévoiler un peu plus, dans un geste fondamental, un geste qu'on aurait peut-être pu deviner. Si, pour les lecteurs très sensibles, on aurait peut-être pu pressentir au moment où l'épopée pourrait prendre fin, au moment où, si vous voulez, Ulysse et ses compagnons pourraient toucher le sol d'Ithaque, Kaloyanis intervient sur la navigation, sur l'appareil de la, enfin, sur les voiles de la barque, et sabote cette réussite. Le bateau repart, le retour est empêché. Et c'est vrai que ce chant 4 sera le chant du retour empêché. À ce moment-là, les personnages, l'équipage, ceux qui avaient choisi de suivre Caloyanis, comprennent tout d'un coup l'ampleur du quiproquo, peut-être, l'ampleur du quiproquo, dans la mesure où, quand on se choisit un chef, on a toujours tendance à en faire une sorte de double de nous-mêmes, à projeter sur lui nos désirs, nos propres quêtes. Et il y a bien un moment où on se rend compte que ce chef, non, ne s'offrait pas à nous comme miroir, loin de là. Ils vont s'en rendre compte. Alors bien sûr, dans ce chapitre un peu plus choral que les autres, les réactions vont être nombreuses. Les gens auront chacun leur manière de ne pas comprendre. Mais le lecteur comprendra, oui, que Saul Kalanis, son but, quel qu'il soit, n'est pas de rentrer chez lui. On peut se demander peut-être, enfin, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais disons que Kaloyanis semble avoir compris qu'il existe un après à la bataille, un après à l'errance qui n'est pas du tout le retour chez soi. Je ne sais pas comment ces personnages, comment les gens qui l'entourent, finalement pourraient lui pardonner cet acte, mais étrangement, dans ce roman, la condamnation n'est pas unanime. Il y a une condamnation, bien sûr, tout le monde voulait rentrer chez soi, mais les réactions sont encore mitigées, différentes, il y a du débat, on ne sait pas trop quoi en faire. Finalement, quand on se retrouve trompé dans sa lecture, quand on a cru en quelqu'un et qu'on a été trahi, le premier réflexe n'est pas forcément de détester cette personne, de vouloir s'en débarrasser, de la punir, mais c'est surtout en fait de s'entretuer avec les personnes qui ont fait la même erreur que nous et leur en vouloir de ne pas nous avoir avertis. Ça crée plus des tensions avec ceux qui ont fait la même erreur que celui qui est directement responsable de la poursuite de notre errance. Je pense que là, il y a une réaction communautaire. Oui, on peut parler d'une réaction communautaire à cette trahison. Je ne saurais pas quoi en dire de plus.
Puis arrive le chant 6, qui serait un antichant, qui n'est plus un chant, puisque la parole n'est plus donnée à un témoin. La parole provient d'une situation nouvelle, la situation du narrateur, la situation de cet universitaire qui interroge, qui enquête. Et cette partie 6 commence ainsi. Vint le jour où ils me jetèrent en prison. C'était un matin d'automne vers 10 heures, en début de saison, parce qu'on ne s'était pas habitué au froid. J'étais dans la petite chambre, allongé sur le lit. Je ne lisais rien, même s'ils m'ont accusé du contraire. Quand ils ont sonné, je ne me suis pas levé avant qu'ils m'eussent appelé par mon nom. Le narrateur, l'universitaire, va se faire arrêter. Il va être mis en prison. Ça jette un autre doute. Que se passe-t-il? On comprend que cette prison est en Albanie. On peut mesurer le fait qu'il ne soit pas libre de pouvoir enquêter ou de pouvoir faire des travaux universitaires sur ce qu'il veut, que la liberté soit contrainte. Posons déjà cette situation. Posons cette situation, je l'ai imaginée telle qu'il y a une scène de procès. J'avais imaginé, bien entendu, en arrière-fond, le procès de Kafka. Vous allez dire que je me fixe sur Kafka, mais c'est parce que l'ambiance peut s'y prêter. L'ambiance est une sorte d'aspect universel, pourrait s'y prêter. Parlez-nous un peu de ce moment où la fiction est complètement coupée, et on parlera après de la surprise ultime qui viendra lors du procès.
Vous avez raison, après le chapitre où on découvrait que Kaloyanis ne voulait pas rentrer, l'enquête allait forcément changer de nature. L'interrogateur, l'universitaire, qui n'a pas de nom dans ce roman, l'universitaire est maintenant en possession d'une sorte de clé. Une sorte de clé un peu ignoble, hein, sur le personnage de Kaloyanis, qu'on aurait été bien heureux de dessiner comme le soldat survivant qui ramène ses hommes à la maison, qui recevra sans doute la médaille militaire et se couvrira de gloire. Finalement, il aurait été un Ulysse tout à fait acceptable. Non, ce n'est pas le cas. Kaloyanis n'a pas voulu rentrer. Il s'est sans doute rendu coupable auprès de ses hommes d'une forme de trahison. C'est un mot qu'on va employer souvent. Et le chapitre suivant envoie le narrateur en prison. Alors, vous parlez d'Albanie. C'est curieux. C'est pas du tout comme ça que je le représentais. Pour moi, c'était vraiment une prison que j'aurais située, alors même si j'aime pas trop situer, que j'aurais située dans le nord de la Grèce. D'où l'importante communauté albanaise. D'où l'importante communauté albanaise. Mais bon, ça n'a pas. Ça n'a guère d'importance, je sais pas, mais.
C'est qu'il y avait des Albanais. Voilà, des Albanais sans citer. Je m'étais dit que ça ne pouvait être qu'en Italie, mais je n'avais, enfin, qu'en Albanie, mais je n'avais pas pensé, bien entendu, à la communauté albanaise hors territoire.
À vrai dire, les Albanais ici ont un intérêt très littéraire. D'une part à cause de Cadaré, beaucoup à cause de Cadaré, et aussi à cause de l'idée. Les travaux de Cadaré par rapport à la littérature grecque voulaient montrer, enfin, veulent montrer, hein, que la littérature grecque, la tragédie et l'épopée, bon, surtout la tragédie pour lui, ne sont pas à comprendre comme des phénomènes grecs. C'est pas le miracle grec. Mais au contraire comme des manifestations de la culture balkanique. Le miracle grec ne serait jamais que, il arrive, bon, on n'y croit pas, il arrive à lier finalement le processus tragique avec les règles du canon albanais, vous savez, le code de vendetta très très complexe d'une certaine culture albanaise. Il arrive à faire ce lien. Et c'est vrai que les Albanais ont fini par incarner, pour un lecteur français comme moi, une sorte de quintessence de l'esprit balkanique. D'autant plus que, comme vous le savez peut-être, dans les années sous Enver Hoxha, dans les années 60, 70, la propagande albanaise tendait à faire de la langue albanaise une langue autochtone, en fait, une culture autochtone, la culture illyrienne par excellence. Ah bon, c'est pas vrai. Ça n'existe jamais. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont rêvé sur cette Albanie qui serait l'essence des Balkans. Moi, j'ai mis ces Albanais ici beaucoup pour montrer la proximité de la frontière. La Grèce, on est toujours près d'une frontière quand on est en Grèce. C'est un pays qui est dessiné d'une manière un peu curieuse. Et surtout aussi pour montrer la proximité d'une culture résolument autre. Quand on parle grec et qu'on affronte un Albanais, pour le coup, on a l'impression de rencontrer, si vous voulez, une sorte de Klingon. C'est une langue très 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 différente. Alors cette incarcération du narrateur marque, vous avez raison, un nouveau marque une sorte de pli dans le texte, dans la mesure où le narrateur va prendre un peu le pas sur Saul Coloyanis. On en parlera davantage et il se rend compte que il vivait dans une sorte d'erreur, hein, ce narrateur. Il imaginait toujours faire une enquête universitaire, comme vous, quand vous faites un mémoire sur, je sais pas, Paul Valéry. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il ne pouvait pas rester éloigné de son objet plus longtemps. À un moment, l'objet allait le rattraper. Dans le sens qu'il a, il enquête, il travaille sur une figure interdite, sur une figure un peu étrange, Saul Calayanis, qui semble poser des problèmes à tout le monde. Eh ben, ça va lui poser des problèmes à lui aussi. On arrive dans un pays qui cherche son chemin dans ses figures historiques après les grands bouleversements de la Seconde Guerre mondiale. La Grèce, comme tous les pays concernés, ont cherché leur chemin dans l'histoire. On se sont cherché des héros, ont cherché à réécrire certaines choses. Et c'est vrai que la démarche de cet universitaire peut passer un peu à contre-courant. Peut heurter, en tout cas il va subir. On va essayer de l'arrêter. On va essayer de l'arrêter. Ce n'est pas un chapitre où on ne parle pas de Kaloyanis, loin de là. C'est un chapitre où on va peut-être comprendre que cette figure-là, même avec un statut de légende pour enfants, représente un danger pour le pouvoir, représente une menace qu'il va s'agir de faire taire. Dans une prison qui, bon, bien sûr, peut faire penser à Kafka, mais pas dans le... ici, il ne s'agissait pas, comme dans Kafka, de montrer les excès d'un système complètement désincarné, sans idéologie particulière. Je voulais montrer comment un pouvoir politique pouvait tenter d'empêcher la parole épique, d'empêcher l'épopée de continuer. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? C'est la question que pose ce chapitre 4.
Il pose ce chapitre également le problème de la fiction, de l'existence réelle de l'épopée, de l'existence réelle d'un héros, de l'existence réelle de nos légendes, puisque une parole va lui être opposée au narrateur, à cet universitaire, cette parole, la voici. Quelqu'un, donc d'autorité, va lui signifier ceci. « Monsieur, vous avez poursuivi là de bien inutiles recherches, car nous n'avons pas trace de l'homme dont la destinée vous fascine. Il fut de nos soldats, dites-vous ? Nous avons consulté les registres, et cela n'en dit rien. Il y a naturellement des homonymes. L'un s'est marié à Salonique en revenant de l'expédition d'Orient. L'autre est resté sous les drapeaux. Il a été tué en 40 contre les Italiens, et à l'instant, vous n'avez pas reconnu sa photographie. » je comprends, croyez bien votre désarroi. Nous avons lu vos notes, ce que vous écrivez de lui m'a passionné. Il aurait été sans doute un individu hors du commun s'il avait existé. Ce n'est pas le cas et je le regrette. Voyez, je ne prononce même pas son nom. Il faut bien maintenant se remettre à penser. Droit, pensez droit, car l'oblique a toujours perdu les civilisations, et vous autres de l'université avez à les faire perdurer autant que possible, quitte à forcer un peu. Vous avez failli, n'en doutez pas, à votre tâche, et j'ai mille reproches à vous faire à ce sujet. Le reproche pourrait être par exemple celui d'avoir utilisé les moyens de l'université pour une chimère. Et là, les témoins, les différents témoins que nous avons rencontrés juste là, dont nous avons entendu la parole, ils se sont rétractés. Ils sont opposés au narrateur, à l'universitaire, des documents. Comme quoi ces différents témoins qu'il a interviewés se rétractent et disent « Mais non, on a inventé pour lui faire plaisir. » Et là, on est sur le rôle de la fiction, on est sur le rôle du mythe, c'est-à-dire à quel point un personnage peut être également inventé. Et on peut tout aussi bien se dire « Saul Kaloyanis n'existe que dans l'imaginaire du narrateur. »
Eh bien, si vous voulez... Dans cette phase de gestation des mythes, parce qu'on connaît tous des mythes. Par exemple, si aujourd'hui je m'intéresse, ou je raconte à mon fils, le mythe de Thésée. Dans les librairies, il y aura 1 million de livres sur la question. Je trouverai des spécialistes, des érudits qui lui raconteront les différentes versions, qui pour chaque version pourront lui montrer une bibliographie, qui pourront citer tel auteur grec dans le texte. Mais pour certains mythes qui n'ont pas encore connu l'écrit, qui sont dans cette phase donc, de gestation, cette partie un peu dans cette partie molle, cette matière molle du mythe qui n'a pas encore durci. Eh ben, ceux qui affrontent ce moment de gestation sont surtout désorientés par cette incertitude. En fait, le mythe de Kaloyanis à ce stade-là n'a pas encore de traces écrites, dépend uniquement de témoins qui eux-mêmes ne concordent pas et qu'un rien peut faire changer d'avis. Ce que je voulais montrer, c'était cette fragilité du mythe aux origines, où finalement, il ne dépend de rien, que le nom tombe complètement dans l'oubli. Les personnages qui ont été interrogés ici, alors ont-ils vraiment été interrogés? Est-ce que c'est un mensonge ou un bluff de la part de l'administration pénitentiaire? On ne saura pas. Mais on peut très très bien imaginer que tous les témoins, y compris le capitaine, le compagnon d'armes du premier chapitre, que tous les témoins aient retourné leur veste. Je pense qu'il l'aurait fait même sans mentir, dans la mesure où si vous avez été, imaginez, vous avez connu la campagne de 40, mettons, vous êtes battu à Sedan en 40, vous revenez chez vous, on vous demande ce que vous avez vu, je suis persuadé que quelques années plus tard, on vous persuadera de n'importe quoi, vous ne serez pas en train de mentir, c'est juste que, habitué, un homme cultivé à être confronté aux textes, aux sources, quand vous êtes laissé au seul phénomène de mémoire dans le feu de l'action, le moindre coup de vent vous persuadera que vous avez menti, que vous avez exagéré, qu'on vous a trompé, que finalement c'était l'inverse. Finalement, c'est intéressant de mettre l'universitaire en difficulté, de lui montrer la nature malléable de ce mythe et de voir si sa quête va survivre à ces témoignages contradictoires. Est-ce que son désir de savoir est encore fort? Est-ce que son désir de faire résister le nom de Saul Kaloyanis pour les générations futures va subsister après ces séances d'interrogatoire qui ne sont pas de la torture, il ne s'agit pas de torture. Il s'agit peut-être de torture au sens où ce qu'on croyait vrai semble ne pas l'être, ou ce qu'on croyait certain finalement tombe un petit peu hors des registres. Je pense que c'est ça l'enjeu de ce chapitre. Est-ce que son désir de savoir, son désir de faire résister l'épopée, de porter lui-même l'épos, hein, la parole épique, va survivre à ce petit bureau, cette petite lumière, ce fonctionnaire en manche de chemise qui compte à quel point, enfin, qui songe déjà à dépointer, qui lui appartient, enfin, qui appartient à ce grand en dehors de l'épopée qu'on appellerait finalement la vie. Je sais pas si je suis persuadé que à n'importe quel grand mythe, les personnes qui ont voulu, les auteurs, les universitaires, les chercheurs, les poètes qui ont voulu faire exister un mythe, ont été soumis à cette épreuve, une épreuve du même type. On leur a dit que ce qu'ils faisaient, ce Thésée dont ils voulaient parler, cette Ulysse dont ils voulaient parler, ce qui vous voulez, cet Iron Man dont ils voulaient parler, tout était faux. Tout était inventé, rien ne pouvait exister, regardez, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué de parler, ils se sont tus, ils sont rentrés chez eux, ils ont allumé la télé. Je ne sais pas. C'est l'épreuve auquel est soumis le narrateur.
Et à ce moment-là, je me suis posé à nouveau 1000 questions, notamment cette fois sur vous, sur votre occupation. C'est votre première publication, Anton Berhaber. Et ça veut dire que je n'ai pas pu vous lire auparavant. J'ouvre ce livre et je découvre votre livre sans savoir rien de vous et sans n'avoir rien lu auparavant. Et il y a un tel jeu dedans, notamment dans cette partie 6, que en filigrane, je me suis dit, voilà quelqu'un, votre livre fait 560 pages, voilà quelqu'un qui a déjà beaucoup écrit auparavant. Beaucoup, beaucoup écrit, c'est-à-dire dont l'occupation principale a été d'écrire des histoires. Je me posais la question de d'où vous venez cette histoire, d'histoire antérieure que vous avez sans doute peut-être déjà écrite, d'où vous venez ce nom de Saul Kaloyanis dont on ne retrouve rien sur Internet, et ce temps très long d'écriture sans même peut-être avoir la possibilité de publication. Sans avoir publié, on peut s'imaginer que ça se trouve, le temps de la publication sera très, 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 très longue. Et alors, je vais vous imaginer dans l'état de ce narrateur en prison à qui on lui dit « Non, le temps que tu as pris pour chercher Saul Kaloyanis est faux. » Enfin, c'est-à-dire que c'était un temps inutile parce que cette personne n'existe pas. Au même titre que l'écrivain, on pourrait lui dire « S'il n'est pas publié, tes fictions, tes histoires n'existent pas parce qu'elles ne sont lues par personne. »
Alors d'où vient ce nom de Saul Kaloyanis? C'est une longue question. En toute honnêteté, aujourd'hui, si je tapais Saul Kaloyanis sur Internet et que je découvrais qu'il n'y avait rien, je ne croirais pas Internet. Ça paraît fou, mais Internet se tromperait. Internet se tromperait. Saul Kaloyanis existe. Saul Kaloyanis existe, j'en suis intimement persuadé. D'une part parce que le mythe, le processus qui consiste à fabriquer des mythes fonctionne à plein tube aujourd'hui, hein, pour le coup. Et cette histoire de création, ce héros qu'on voudrait ou pas faire exister, cette question, doit-on faire exister ce mythe, ce héros mythique, on se la pose tous les jours sur un certain nombre de sujets. Moi je pense que très souvent on a tendance à, si vous voulez, opposer la pensée mythique à la pensée historique. Les Grecs, ce peuple un peu archaïque qui ne différenciait pas le mythe de l'histoire ou qui a mis du temps à le différencier, serait finalement assez, aurait eu tort par rapport à nous, héritiers du positivisme, qui saurions parfaitement distinguer le vrai du faux, qui aurions une culture des sources, qui pourrions faire des recoupements. Moi, je trouve cette pensée, je ne sais pas si certains pensent comme ça, à mon avis ils ont clairement tort, parce que le processus mythique est toujours parfaitement d'actualité. Et même si Saul Kaloyanis n'a pas impressionné Google, il existe un grand nombre de Saul Kaloyanis. Des mythes du futur, des mythes en gestation. Des gens dont le nom ne vous dira rien aujourd'hui, mais peut-être dans 100, 200 ans, ils auront acquis le statut d'histoire du soir, si vous voulez. Donc ce nom-là me paraît... J'ai pris... Je ne me souviens pas exactement comment ce nom s'est imposé. Je suis persuadé qu'il existe. Kaloyanis, en prenant le nom Saul, je pense, là je suis en train d'un petit peu de, l'inventer, ce que j'ai pu me dire en inventant ça. Je pense que j'ai voulu rattacher ça à une sorte de tradition de l'errance qui n'est pas sans lien avec le judaïsme. Qui n'est pas sans lien avec le judaïsme. Quant à Kaloyanis, bah c'est Monsieur Dupont. Stinelade. C'est Monsieur Dupont en Grèce. Mais maintenant, ça paraît ridicule, mais je suis persuadé que Google a tort. Ce prénom existe. Et je crois, je ne sais pas si c'est vrai, mais un lecteur m'avait déjà signalé qu'au contraire, Saul Kaloyanis existait sur Google. Je crois que c'est un chanteur un peu à la mode des années 70 en Grèce. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que... Je crois que c'est peut-être un Eric Chardin dans la culture grecque des années 70-80. À voir, à vérifier. Est-ce que ça me pose problème que ce nom ne soit pas présent sur Internet? Absolument pas. Absolument pas. Moi, je pense qu'Internet n'a pas le monopole de l'épopée, n'a pas le monopole de la création du mythe, et ne l'aura de moins en moins. Souvent, on a tendance à dire aujourd'hui que quand notre nom n'existe pas sur Internet, c'est qu'on n'existe pas vraiment. Je pense que ça pourrait être exactement l'inverse. Quand votre nom n'existe pas sur Internet, là, vous existez complètement et vous n'existez. Je suis presque un peu déçu que, bon, en publiant chez Gallimard ce roman, le nom va apparaître sur Internet, il va être rattaché à ce roman, bah, c'est presque dommage. On aurait peut-être pu, d'ailleurs, je lance un appel, on aurait peut-être pu faire un effort pour ne pas faire apparaître du tout ce nom sur Internet et lui laisser ce degré supérieur d'existence. Ça fait un peu mystique, hein, mais je suis persuadé de pas avoir complètement tort.
Je vous remercie énormément, Antoine Berabert. Merci.